Allô, ici Jackie d'Orléans. Je réagis aux rumeurs qui ont été si dures à vivre pour les gens d'Outreau. Dieu sait qu'il y a des occasions actuellement d'avoir honte de faire partie de la race humaine. Les rumeurs sont une des pires choses. Honte à ceux qui les propagent, les nourrissent, les entretiennent et n'ont même pas le courage de réviser en faisant le premier pas vers ceux qui ont déjà tant et trop souffert. Espérons que l'État réparera rapidement s'il est possible de réparer de tels abjects traumatismes.
Bonjour Daniel Mermet, je m'appelle Morissette, je suis dans le 14e. Je viens d'écouter votre émission sur ces pauvres gens qui ont été accusés dans cette affaire abominable d'Outreau. Et là, vraiment, c'est une claque que la société reçoit parce que c'est une abomination de pouvoir laisser ces gens dans la détresse dans laquelle ils sont. J'ai vraiment honte, mais franchement honte, que la justice se fasse ainsi dans notre pays. C'est sûr que c'est plus qu'une abomination parce que ces gens n'ont même pas le choix. Les dernières paroles de cet homme qui disait « Mais pourquoi on reste à la cité du renard ?» Mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'ont rien. Ils n'ont strictement rien. Et ce qui est très grave, c'est que j'ai l'impression que tout ça, ça laisse les gens froids. Tellement froids que vraiment, c'est comme la mort, cette histoire. C'est une honte. Et on a l'impression qu'on bascule dans le trou. Qu'on bascule vraiment dans l'abomination là, la plus incroyable. Je suis dépassée par une chose pareille. J'ai honte, vraiment j'ai honte. Et je voudrais dire à tous ces gens que je suis vraiment de tout cœur avec eux. Et que un jour, j'espère qu'un jour, enfin, il y aura justice pour eux.
Oui, bonjour Daniel. Un écho à ton émission sur Outreau. J'ai pensé à ce texte de 1952 de Morvan Levêque du Canard Enchaîné. Ça n'a pas pris une ride. Innocents dans les prisons, vous dont nous ne connaissons ni les noms ni les visages, frères qui vivaient de l'autre côté des murs et dont nous ne savons combien vous êtes ni où vous êtes, je ne viens pas vous donner des nouvelles du monde. Vous le connaissez mieux que moi. Vous en savez plus long sur lui que les vivants et même les morts. C'est que vous n'êtes ni vivant ni mort. Innocent dans les prisons, je ne puis rien pour vous. Je ne puis, par cette lettre, que vous demander pardon. Je vous demande pardon pour mes travaux quotidiens et mes sommeils paisibles. Je vous demande pardon pour les cris que je n'ai pas poussés, pour les tortures que je n'ai pas subies. Je vous demande pardon pour tous les juges qui m'ont ignoré et les flics qui m'ont laissé dans la rue. Je vous demande pardon pour le hasard qui a fait de moi un homme libre. Voilà. C'était Stéphane Haute-Garonne.
C'est Jean-Marc de Holk. Je voulais dire que l'émission d'aujourd'hui était très poignante, mais il reste encore aujourd'hui 6 innocents qui sont en appel. Et avec d'autres, j'ai participé à la création du comité de soutien aux 6 en appel dans l'affaire d'Outreau. Et nous avons une boîte postale 37 72201 à Boulogne-Cedex. Au revoir.
I'm George W. Bush, and I approve this message.
Alors ça prouve que c'est vrai, hein. W nous a dit que c'était vrai. On a son assentiment. Voilà, des messages suite à l'émission d'hier sur les acquittés d'Outreau. On va passer encore cette heure aujourd'hui avec eux, ceux qui ont été accusés et qui, pour les uns, 2 ans, pour les autres plus de prison, se sont retrouvés en liberté après avoir été accusés du pire des crimes, celui de pédophilie. On regarde avant de retourner à Outreau le grand tableau du coup de la guerre en Irak. Je vous rappelle qu'il y a un grand panneau qui est au milieu de New York sur Manhattan et qui a au millième de seconde près depuis le mois d'août indique le coût total de la guerre en Irak depuis le début. Et bien à l'instant où je vous parle, on en est à 137 milliards 372 638 943 milliers de dollars. Hein, je répète, 137 milliards 372 658 1 000 $. Alors, le jeu quotidien de là-bas, si j'y suis, c'est de vous demander qu'est-ce qu'on aurait bien pu faire avec cet argent. Vous avez des idées, chaque jour vous en donnez, et on va vous entendre dans les messages qui suivent. Je rappelle le numéro du répondeur, 01 56 40 37 37.
Bernard Dobena, avec 137 milliards et 192 millions de dollars, eh bien, on pourrait avoir 36,5 porte-avions nucléaires Charles de Gaulle. C'est extraordinaire, non? On n'en a que deux. 36,5. Fabuleux.
Alors, avec 137 milliards, je sais plus combien de millions de dollars, si on considère qu'un dollar mesure 1 mm d'épais, on peut faire une jolie pile de 137 000 et quelques kilomètres de haut. Hein? Allez, Georges, encore un petit effort et bientôt on retourne sur la Lune.
137 milliards, ça me dépasse et je sais pas du tout ce que l'on aurait pu en faire. Mais peut-être on pourrait donner un peu d'argent à la France pour que les personnes handicapées, dont je fais partie, ne vivent pas l'été que j'ai vécu, à savoir sans électricité et sans EDF. En effet, je vis avec une allocation adulte handicapée depuis 1991. Depuis 4 ans, je suis en train de devenir pauvre, sans compter que mon handicap s'aggrave, mais ça, ça n'a rien à voir. Et il se trouve que cette année, en 2004, je n'ai eu droit à aucune aide auxquelles j'avais droit précédemment, parce que les plafonds ont baissé. Voilà, alors merci à vous tous qui travaillez, qui cotisez, qui êtes taxés et surtaxés. Je vous remercie de me faire vivre, parce que je ne peux pas subvenir à mes besoins. Mais je voulais que vous sachiez que j'ai passé l'été sans électricité, avec le risque d'incendie tous les soirs. Mais bonne nouvelle, il y a juste un agent EDF qui vient de me remettre l'électricité. Voilà ce que je voulais dire. Au revoir.
J'aimerais savoir ce que l'on pourrait faire avec l'argent que l'on aurait en supprimant cette émission ignoble. Et je sais que ça permet à toute une bande d'abrutis de se prendre pour des grands penseurs, des grands politiques, des grands médecins, etc., en téléphonant et en ayant leurs petites 5 minutes ou 2 minutes d'andivarole.
Salut Daniel, salut tout le monde. Les Français doivent être plus forts que les lobbies, dixit Jacques Chirac. Lobby militaro-industriel, lobby pétrolier, lobby pharmaceutique, lobby agricole. Un lobby est par essence antidémocratique. J'ai souvent demandé autour de moi cette question à la Saint-Exupéry. Comment combat-on un lobby? On m'a souvent répondu, outre-Atlantique, avec un autre lobby. Mais voilà, nous, citoyens lambda, ni millionnaires, ni terroristes, comment peut-on combattre un lobby? Avec ton vote, monsieur Surton. Mais on est un échelon trop court. Le lobbyiste invite à dîner le politique. Et moi, je suis le serveur. Alors, comment combattons un lobby? Olivier, d'un peu partout, mais surtout plus d'ici, un peu écœuré. Salut.
Oui, bonjour, c'est le Tactique Collectif de Toulouse. Pour vous dire que nous organisons à Toulouse en octobre le festival Origines Contrôlées sur le thème de la mémoire, de l'immigration et de la colonisation, avec des débats, des concerts, des expos. Et vous pouvez trouver des infos sur le site tacticcollectif.org, TACTIKO2LECTIF.org. Merci, au revoir.
La communauté de communes libres Pougnières-et-Son-Montembeuf organise le festival de l'imprévu des 10, 11, 12 septembre à Montembeuf en Charente, avec les acrostiches le vendredi, le bal grolandais samedi et San Severino le dimanche, ainsi que des scènes ouvertes et un forum sur le handicap. Voilà, merci Daniel pour votre émission. C'est un message de l'équipe de l'imprévu festival à Montembeuf. À bientôt, Fabien.
Bonsoir. Depuis les années 1989, je vous écoute régulièrement et j'adore vos émissions. Et plus d'une fois, j'ai voulu vous laisser un message sur le répondeur. Et ce soir, je me décide enfin pour vous annoncer que cela fera trois mois, le 10 septembre, que mon mari est mort d'un accident de moto. Bien sûr, ce n'était pas une vedette. Les journaux n'en ont pas parlé. Mais moi, je voulais vous dire que c'était un homme formidable, droit et honnête. Je voulais que les auditeurs le sachent. Il est mort trop tôt. Il avait 46 ans. C'est un hommage. Et c'est pour ça que je vous ai appelé. Je voulais lui rendre cet hommage. Voilà, je m'appelle Caroline. Je suis de la ville de Velot. Je vous souhaite une bonne continuation.
Bonjour Daniel et tous les auditeurs de Radio France. Je suis actuellement sur mon lieu de travail. J'écoute là-bas si je suis parce que avant j'étais au chômage et j'écoutais tout le temps. Maintenant je travaille et j'écoute quand même. C'est génial, merci. Moi je fais du social, je travaille dans le traitement des charpentes, les termites et tout ça. Les gens nous prennent pour des manouches, ils n'ont pas confiance. Donc c'est très difficile de travailler. Mais en tout cas, en vous écoutant, ça remonte le moral. On trouve qu'on n'est pas tout seul en France à penser comme ça, à être victime des systèmes ACDIC, ANPE et tout ça. Et puis, c'est avec un grand plaisir qu'on vous écoute tous les jours. Et moi, c'est Sophie de Quimper, de l'Agence finistérienne pour la protection de l'habitat. Et nous faisons des contrôles gratuits de charpentes, on n'arnaque pas les mémés. Merci beaucoup, à bientôt.
I'm George W. Bush, and I approve this message.
Totov, cette affaire-là, salut tout le monde. Madame a posé la question.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah bah si j'y suis avec Olivia Gesbert, les acquittés d'Outreau.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, Totov, cette affaire-là, salut tout le monde. Madame a posé la question. Non mais, oui ou non?
Ouais, bah c'est voilà, votre réponse elle est faite.
Un sacré choc, ouais. Parce qu'on a été le plus embêté, c'est par les journalistes au début. Les journalistes, ils ont marqué, par exemple, l'immeuble des crasseux, qui nous a été marqué sur la voie du Nord, l'immeuble des crasseux. Alors ça fait bien quand même pour nous, quoi. C'est clair.
Eh hey, monsieur, madame, vous nous filmez pas, hein.
Non, il n'y a pas de caméra.
Ouais, c'est quoi là à côté de vous?
C'est un micro simplement.
C'est un micro, c'est pas la caméra.
Dis bonjour. T'as vu, c'est une caméra.
Non. J'ai eu une tentative de suicide en cellule. Et j'avais découpé le drap en lamelles. Je l'avais accroché au barreau, j'avais refermé la fenêtre, j'avais fait le nœud coulant. Je m'avais bouché la bouche, les narines, attaché les pieds. Et j'avais plus qu'à m'accrocher, mais quand je me suis accroché et que j'ai mis le drap autour du cou, j'ai eu l'image de mon gamin dans ma tête qui me disait encore une fois, papa, fais pas ça, j'ai besoin de toi. Et là, tout de suite, j'ai arraché le drap et je me suis rallongé, quoi.
Vous habitez ici depuis combien de temps?
On est là, on est rentré le 8 octobre 58. Pas d'aujourd'hui, hein. C'était des gens très bien, si c'était bâti.
Mais t'avais pas des immeubles comme ça.
Vous savez ce qui s'est passé? Maintenant, on enlève des gens qui ne sont vraiment pas bien et on nous les ramène ici. Faut bien les loger quelque part. Ça travaille pas tellement là-bas. Mais ça a de l'argent quand même. Ils cherchent du travail, peut-être dans l'espoir de pas en trouver. Hein?
Et vous la connaissiez, vous, Rosine Godard, la boulangère? Par exemple?
Qu'est-ce qu'elle foutait la minuit, elle? Avant de ses pains?
Arrête de parler, m'énerve.
Ben aujourd'hui, elle va gagner des sous. Aujourd'hui, elle fait un livre.
Ah.
Elle va gagner des sous.
Ça vous gêne qu'ils fassent des livres maintenant et qu'ils sont
oui.
Les caméras tout le temps?
Exactement, parce qu'ils vont encore gagner de l'argent sur de la misère. Ça, c'est toujours pareil, hein. C'est quelque chose, ça. Voilà, mademoiselle.
Merci, madame.
Bon après-midi.
Dominique Lagroux et Denis Bertrand sont retournés dans ce quartier d'Outreau, dans la banlieue de Boulogne-sur-Mer, où les habitants tentent d'oublier cette horrible histoire.
Difficile de croire que dans trois appartements de ce quartier d'Outreau, 16 enfants du même âge que ceux-là ont été violés et torturés pendant plusieurs années. Difficile d'imaginer aussi que les auteurs de ces crimes seraient les propres parents des enfants. Des voisins, un prêtre ouvrier aussi, un huissier de justice. À Noël, les petites victimes recevaient en guise de cadeau des cassettes pornographiques. Mais ce jour-là, dans la cité de la Tour du Renard, on ne veut pas penser à toute cette histoire. Aujourd'hui, c'est jour de fête, jour de la chasse au trésor. Pourtant, il y a des détails qui ne trompent pas. Les parents ne sont jamais loin de leurs enfants. Cette histoire de pédophilie, ça fait 3 ans qu'ils sont contraints de vivre avec, 3 ans que leur réputation est faite. Au rez-de-chaussée de l'un des immeubles, il y a Roselyne, elle tient la laverie. Ici, on lave son linge pour moins d'un euro.
Décembre 2000, petit Dimitri Delay, 7 ans, et son frère accusent leurs parents Thierry et Myriam Delay de les avoir violés et prostitués de 1995 à 2000. Un autre couple est mis en cause, Aurélie Grenon et David Delplanque, et aussi un chauffeur de taxi, aussi un huissier, un prêtre ouvrier et d'autres encore. Certains sont dénoncés pour attouchement par leurs propres enfants. Myriam Delay et Aurélie Grenon confirment les noms évoqués, tous clament leur innocence. Des viols collectifs auraient été filmés pour alimenter un réseau de cassettes vidéo. On parle aussi de zoophilie. Jusqu'à 50 adultes sont évoqués et accusés par les enfants. En janvier 2002, l'un des prévenus raconte qu'une petite fille belge a été battue à mort après avoir été violée dans l'appartement des Delay. Finalement, la cour d'assises de Saint-Omer juge 17 adultes mis en cause par 17 enfants pour viol et acte de barbarie. Coup de théâtre, le 18 mai 2004, Myriam et Aurélie disculpent 13 accusés. Mais 3 jours plus tard, recoup de théâtre, Myriam accuse à nouveau 12 d'entre eux, mais elle n'est plus crédible. Tantôt elle accuse, tantôt elle avoue s'être trompée. Le dossier repose sur des indices, des rapports d'experts, des témoignages concordants, mais aucun élément de preuve. Monstrueuse erreur judiciaire, monstrueux dysfonctionnement. À qui la faute? Au juge d'instruction Fabrice Burgot, 30 ans inexpérimenté. Faute de l'affaire, à l'affaire Dutroux, qui se déroule à 100 km de là. Dutroux, dont on affirme qu'il a des protections au sein de la justice, de la police et de la classe politique belge. S'il existe un réseau pédophile à Outreau, on ne pardonnera pas au juge d'instruction d'être passé à côté. Et la stratégie également de la droite, faute à cette stratégie lors des présidentielles, souvenez-vous, qui a consisté à installer, à imposer une psychose d'insécurité en fustigeant le laxisme ambiant. Pression des médias, évidemment aussi, pression des associations de victimes, obsession de réseaux pédophiles, et puis la parole de vérité des enfants. Les enfants ne mentent pas, la vérité sort de la bouche de l'innocence. On en est là. C'est actuellement, vous connaissez cette histoire, vous l'avez suivie, nous l'avons tous suivie. Sauf quelqu'un qui est tombé en panne en cours de route, c'est François Mourmand, un ferrailleur de 33 ans, qui est mort en détention d'une overdose de médicaments, peut-être un suicide. Avec Olivia, on a voulu retrouver ceux qui ont été acquittés dans cette affaire. Qu'est-ce qui se passe quand après deux ans et demi d'accusations, de soupçons et de détentions pour pédophilie, comment on sort, comment on retrouve la liberté, quel opprobre, quelle tâche, quelle réhabilitation, quel préjudice possible. C'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis sur France Inter.
Une rumeur, c'est une information non vérifiée qui circule. Non vérifiée, ça ne veut pas dire faux. La base de toute rumeur, c'est un phénomène inexpliqué. Les rumeurs partent d'un événement un peu traumatisant qu'il faut expliquer. Il faut trouver quelque chose, parce que la douleur est trop forte.
Il faut arrêter de prendre les gens qui croient les rumeurs pour des imbéciles, etc. La rumeur, elle naît de l'incrédibilité. Les choses n'arrivent pas par hasard. Cette rumeur, elle a un fondement. La rumeur, c'est ce que vous avez envie de croire. Et c'est ce que vous pouvez croire. Il y a toujours cet effet de sélection qui fait que les gens reçoivent le message qui les concerne. Le travail nécessaire à toute rumeur, c'est de dire, si les gens le croient, qu'est-ce que ça indique? Cette idée qu'il n'y a pas de rumeur incroyable, il n'y a que des gens qui à un moment donné veulent croire quelque chose parce que ça dit un message particulier.
La rumeur, c'est le cachet. C'est qu'est-ce qu'on cache, je vais vous le dire. Qu'est-ce Mais la rumeur a dit autre chose. Il y a toujours un double discours dans la rumeur. Il y a toujours un double discours dans la rumeur. Il y a toujours un double discours dans la rumeur.
Vous étiez facile à reconnaître, petite femme, brune, cheveux courts.
Oui.
Pas loin la poste.
C'était l'occasion de venir chercher le courrier et un endroit qui est assez facile à trouver, je pense, à Boulogne-sur-Mer.
Et maintenant, on fait quoi alors?
Maintenant, ce qu'on fait, je n'ai aucune idée. Je pense que vous ne connaissez pas la mer.
En route.
Je me disais que je vous avais promis le beau temps, mais non, c'était à une de vos concerts de TF1.
Je suis overbookée,
On a, j'ai la télévision belge également qui m'a aussi contactée hier. Et bon, je pense que déjà durant ce procès, les journalistes de Suisse, italiens, anglais, portugais m'ont interviewé et ils vont remettre ça aussi à l'ordre du jour.
Mais c'est vrai que vous êtes aussi une des plus médiatiques, une de celles qui peut-être passe le mieux et plus à l'aise devant les médias. C'est surtout vous qu'on voit.
C'est-à-dire plus à l'aise, pas vraiment. C'est la force des choses qui a fait que j'ai très mal vécu cette agression. Agression dès les premiers jours du procès.
Médiatique?
Ah oui, c'était très très difficile à vivre. Et finalement, je n'avais pas le choix. Soit pour franchir le mur des journalistes, il fallait dire quelques mots, sinon on passait pas. Les médias ont été pour nous les pires ennemis avant ce procès, dans les premiers jours du procès. Mais ensuite, ils ont aidé à ce qu'on nous entende.
Je me crois une...
Non, non, ça va, ça va. C'est parce que bon, comme j'ai eu réunion hier, j'avais tous mes documents et... C'est un peu toute ma vie, ce que je promène, hein. Tous mes écrits. Parce que malheureusement, ce cauchemar a fait de moi une SDF. Je n'ai plus rien. C'est tout ce qui me reste.
Allez, on met les sacs dans la voiture.
Star et SDF, c'est Roselyne, Roselyne la boulangère, Roselyne superstar maintenant, hein, le mur des médias. Elle a réussi à franchir ce mur des médias qui empêchait les gens de passer, les acquittés de passer, s'ils ne disaient pas certains mots. La pression médiatique a été considérable, délirante sur cette affaire Outreau. C'est pas la première fois, mais là, ça a joué un rôle très important. Alors, aujourd'hui, ben voilà, à la fois une star tout à fait provisoire, évidemment, et en même temps, elle est SDF, parce qu'elle vient de se... Elle a été libérée, brusquement, et complètement désorientée. Elle s'accroche quand même à ses dossiers, et à ses souvenirs, et à ses convictions. Roselyne.
On a roulé une heure,
oui, c'est à peu près, parce qu'on a roulé un peu maintenant.
Alors, où est-ce qu'on est?
Alors où on est à Berck, là où j'ai passé mon enfance, ma jeunesse aussi.
Face à la mer.
Face à la mer, oui, c'est un spectacle dont je ne me rassasie jamais. J'avais ces images de la mer, le seul petit coin de ciel bleu que je pouvais voir quand j'étais enfermée. Ben, je revoyais cet endroit. C'est pas fini, l'affaire d'Outreau. Elle continue à produire des injustices. Et pour moi, je vis l'injustice avec les autres.
Avec le verdict et l'acquittement, tout s'est pas arrêté?
Non, d'aucune façon. Pour moi, c'est... Moi, je n'ai pas été acquittée totalement. Tant que mes compagnons, eux, n'auront pas entendu le mot acquitté, l'injustice continue. Je suis concernée autant qu'eux. Pour moi, je suis concernée. Dès le verdict, quand j'ai entendu le verdict, j'ai pas entendu pour moi. J'ai pas entendu. Si j'entendais 2 ans avec sursis, 3 ans avec sursis, 7 ans. Mais c'est mon avocat qui m'a pris la main, qui m'a dit, Roselyne, c'est fini, acquitté. Je voulais pas écouter, je voulais entendre ce qu'il disait. Pour moi, c'était pas fini. Non, c'était pas fini.
En fait, on se dit qu'on aurait pu être à la place d'un des 6 autres.
Tout à fait. Pour moi, j'ai... C'était une loterie.
J'ai pas eu cette impression d'avoir été entendue durant ces 9 semaines, comme tout au long de ces 3 ans. 2 mois et 21 jours. Pour moi, je me suis dit, on m'a pas entendue pendant ces 9 semaines. Il faut des sacrifiés. Et je vais faire partie de cela. Donc, quelque part, on m'a pas quittée. On a toujours dans le regard des autres cette crainte, ce doute, parce que dans leur tête, peut-être qu'ils pensent, peut-être que finalement elle est coupable, peut-être qu'elle... Et ça, on s'en sort pas, ça c'est pas possible. Mon désir aujourd'hui, c'est d'en faire que mes compagnons d'infortune soient innocentés et de fuir. Que je redevienne une inconnue, pour que plus jamais on puisse me regarder en me disant, comme on m'a dit dimanche, j'étais loin d'ici, avec ma fille. Tu as vu qui est devant nous ? Disait une dame à une autre. C'est la boulangère d'Outreau. L'autre dame lui disait, ah oui, l'affaire de ces pédophiles. Tu savais ça, plus jamais je vais l'entendre. Je vois toujours ce doute. Toujours. Et on m'a tué. On m'a tué, ça. C'est la chose qui... Aujourd'hui, je suis toujours vivante. Vivante, je marche. Je mange. Mais c'est tout, ça se limite à ça. Et je crois que c'est la même chose pour chacun d'entre nous qui ont vécu ces horreurs. Parce que de telles horreurs, accusées de telles horreurs, c'est terrible. Terrible. Je n'avais pas mérité ça. Non, pourquoi cette punition ? Je le vis comme une punition et c'est terrible. Pourquoi cette question ? Pourquoi aller dans la tête depuis le 11 avril 2001, pour ma part ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi nous ? Pourquoi nous ? Pardon, excusez-moi. Chercher pourquoi j'ai pas de réponse, on comprend pas. La seule que j'ai trouvée, c'est j'avais une tête qui puisait pas, c'est tout.
Ces années de prison, elles sont particulièrement difficiles quand on est accusé de ce que vous avez été accusé.
Oui, c'est plus que difficile. Au départ, on m'avait donné la consigne de ne pas en parler, mais irrémédiablement, un jour ou l'autre, ça se sait par le biais de la presse, ce qui m'a valu des heures et des jours de terreur, des insultes, des moments horribles, horribles, où j'ai dû rester terrée, service de douche spécial. Je ne pouvais pas plus me déplacer sans être encadré par le personnel de surveillance, puis au contact des autres, parce que bon, c'était... On m'avait fait des menaces de mort. Vous êtes un monstre. Mais bon, j'avais cette grande chance d'avoir pu ne pas expliquer dans les premiers mois de mon incarcération de quoi j'étais accusée. Oui, c'est-à-dire dès les premiers mois, on a très vite compris que qui j'étais, on m'appelait Mère Teresa. Donc j'étais l'intello et Mère Teresa, parce que bon, j'avais toujours le crayon et le bloc à la main, ce qui me permettait de rendre service aux unes et aux autres. Beaucoup sont analphabètes, d'autres pas très expertes avec l'écriture pour faire les courriers aux uns et aux autres. J'ai une petite âme de poète, donc je faisais de la poésie de 4 sous pour les uns et pour les autres, des poèmes pour leurs enfants, pour leur mari. J'avais une compagne de détresse qui aimait aussi Jacques Prévert et
quand des moments privilégiés où nous pouvions être partager le même espace, je lui ai demandé qu'elle me lise l'Opéra de la Lune. L'Opéra de la Lune, c'est quelque chose qui me faisait rêver. C'est ces petits astres qui travaillent à rendre la Lune plus belle. Donc, moi, j'avais cette chance de pouvoir m'évader constamment. J'étais toujours la tête dans le ciel. Et...
aujourd'hui, le monde du dehors, il est là. Comment on apprend à se réinsérer dedans, à refaire partie du paysage, quelque part?
Je pense que, enfin, pour moi, je n'arrive pas à réaliser que je suis au dehors. C'est refaire partie de cette société qui m'a rejetée à un moment. Donc, pour moi, la reconstruction n'est pas encore possible. Je ne l'envisage pas.
Et vous avez conscience que vous provoquez aussi un peu la jalousie de certains aujourd'hui, quand même, parce que vous êtes celle qui est un petit peu sous le feu de la rampe, qui est aussi sortie de l'anonymat, et qui en plus s'en sort bien de cet anonymat parce qu'elle est innocente.
Non, pour moi, je pense que s'ils veulent ma place, ils peuvent la prendre, mais qu'ils prennent tout ce qui va avec. Pas seulement cette médiatisation, ce regard de quelqu'un qui a ce pouvoir de parler derrière cette chance de parler derrière les caméras. Il faut qu'ils vivent aussi avec mes nuits. Avec mes angoisses. Moi, j'ai pas le sentiment que ma place est très enviable.
Si tout ça n'était pas arrivé, vous en seriez où? Vous seriez toujours la petite commerçante itinérante qui va s'arrêter à la Tour du Renard?
Je n'étais pas la petite commerçante itinérante, j'étais chef d'entreprise. Je ne faisais plus mes tournées. J'ai fait ça quelques mois. Après, j'avais monté une entreprise avec 30 personnes qui travaillaient pour moi.
Un mari, une fille, une entreprise qui prospérait. Et aujourd'hui ?
Une maison et aujourd'hui, plus rien. Plus rien. Une valise à roulettes. Et la valise ne m'appartient même pas. C'est quelqu'un qui m'a prêté cette valise. C'est grave. Donc je pense qu'on ne peut pas vivre en faisant comme si ça n'avait jamais existé. C'est pas vrai.
Et pendant le procès, vous avez écrit aussi vos impressions d'audience. Elles ont été publiées en partie par Libération, un quotidien. Moi, j'étais assez frappée par cette dernière phrase. Vous pouvez me la lire. Quand mon tour arrive...
Quand mon tour arrive, maître me prend le bras. Tu es acquitté, c'est fini. On entoure les 6 condamnés, surtout les 2 qui vont partir en prison. Franck Lavier et l'abbé Vielle, ils n'ont pas un sou sur eux. On se cotise. Pour moi, c'est clair. Quelque chose d'autre vient de commencer. On va se battre les uns pour les autres.
Tout est là.
Ouais.
Il est là, l'espoir, non?
L'espoir. C'est fou. C'est fou. Pas permis qu'on puisse autant continuer cette injustice. Pourtant, c'était visible, on l'a entendu tout au long de ce procès. On ne devait pas continuer dans la même voie. 7/13 ont été acquittés, c'est pas suffisant. Il fallait les 13 parce qu'il y avait 13 innocents. Et je pense que le procès à Paris sera enfin l'heure de vérité. Très innocent.
Et si vous la voyez, par exemple, la boulangère Rosine, vous lui diriez quoi?
Rien du tout. Bonjour, bonsoir, même pas. J'ignorerais. J'ignorais que j'ai jamais eu affaire à elle, moi. Hein.
Non. Si c'est pas, si elle n'est pas dans l'histoire, c'est quelque chose quand même, hein, d'être accusée à tort. Hein. Et elle l'a bien dit, c'était l'accusateur, hein, faut bien dire. Hein.
Enfin, si vous aviez des enfants, vous iriez peut-être pas lui confier vos enfants, quoi.
Certainement pas, hein.
T'as suivi toute cette affaire ?
Non.
Ça se passait quand même à côté de chez toi. T'as vu le film ? C'est arrivé près de chez vous ?
Quel film ?
T'as pas vu ? Bon. Non, mais c'était quand même, ça se passait juste à côté.
Un film de X ?
Non, pas franchement. Non. Rien à voir, quoi.
C'est
pas
que j'ai un garpeau. J'ai un garpeau.
Tu vois, ici, on est dans un quartier à majorité de vieilles personnes. Hein. C'est-à-dire que les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux. Hein ? C'est-à-dire des logements faits pour les jeunes, pour les jeunes couples qui démarrent, hein, pour les ouvriers, pour les ménagers, mais aussi peut-être pour les chômeurs. Hein. Tout ceci dans le plan d'une restructuration des plans de secteur visant à vaincre la solitude du troisième âge en l'intégrant à la population active. C'est une chouette idée. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique. Ça n'est pas possible. Hein. Je suis désolé, allez. Hein. Bon, ils avaient pensé installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ?
Non.
Si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage. Hein, mm-hmm. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux. Les gens ont dit oui, mais non. J'ai été observateur, j'ai remarqué qu'on s'est arrêté à un moment et c'est ça qui est dommage. Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça ? La première chose qui te saute aux yeux ? Les briques ! C'est le brique rouge.
Ouais.
Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang. Le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence. Mmh. Hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon vieux. Mmh. Le vin qui dit vin, dit pot de vin.
Ouais.
Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Mmh. Ça me désole, hein. T'en sors, tu vas n'importe où avec ta caméra.
Le procès des pédophiles d'Outreau, des témoins dressent le portrait d'accusés au-dessus de tout soupçon. Parmi eux, un chauffeur de taxi. Sa fille est convaincue de son innocence, vous l'entendrez.
France Inter.
Je sais qu'il est accusé du pire crime dont on puisse être accusé aujourd'hui. Et que si j'avais douté ne serait-ce qu'une seconde de lui, je ne serais pas là aujourd'hui pour le défendre comme je le fais. Mon père, ça paraît idiot de dire ça, mais c'est un père merveilleux. C'est le père dont on rêve, quoi. On a toujours tout fait avec lui. On est parti en vacances avec lui. On a fait nos loisirs avec lui, notre sport avec lui. Et je sais qu'il n'a rien fait. Je sais qu'il n'a rien fait quand il a été arrêté par la police. Il a dit à mon grand-père, dites à Christelle et aux enfants qu'ils peuvent garder la tête haute. Parce que je suis innocent et ça fait 2 ans et demi qu'on garde la tête haute et ça fait 2 ans et demi qu'on attend que la vérité éclate. Donc j'espère que la vérité va vraiment éclater là.
Sept sur 13 ont été acquittés en mai dernier dans l'affaire d'Outreau, dont Roselyne, qu'on vient d'écouter, d'entendre, qui raconte la profondeur de la souillure subie et qui semble vraiment quelque chose d'irréparable. Voilà un autre homme qui a été lui aussi accusé et qui a passé plus de 2 ans en prison pour une faute qu'il n'a pas commise. C'est le chauffeur de taxi, Pierre Martel, dont on vient d'entendre la fille.
Le président se lève avec ses assesseurs, les membres du jury, et puis s'en vont. Et puis vous, ben vous sortez par la grande porte du tribunal, libre, mais seul. Je suis plus pareil, j'ai vécu 30 mois de prison, et ça m'a changé, et ça a bouleversé ma vie. Et puis là, on rentre dans la vie active, et tout recommence. Et là, bon, ben, on s'aperçoit que... Moi, je m'aperçois que ma femme a actuellement le contre-coup de toute cette affaire, parce que c'est une femme forte, mais il y a des moments où, bon, Elle pleure. Et ça c'est l'après-procès, ça c'est ce qui vient après tout ce qu'on a subi. Ça n'est plus comme avant. Avant, on était heureux de vivre. Mais ça, c'est dur. C'est dur parce que tout est à... Moi j'étais artisan taxi, j'avais une bonne clientèle, tout marchait bien. J'avais mis un peu d'argent de côté pour... j'ai commencé à travailler à 14 ans et demi. Donc, je pensais pouvoir prendre ma retraite un peu plus tôt. Donc, on avait mis un peu d'argent de côté. Je pensais prendre ma retraite vers les 57 ans. Mais là, ces trois années qu'on m'a prises, là, j'ai pas cotisé. Donc, il va falloir que j'aille plus loin. Donc, c'est tout, vous voyez, c'est tout des... Toutes des choses qu'on découvre au fur et à mesure où les jours passent et puis qui nous gênent, qui nous mettent en colère, qui... Moi, en ce moment, je suis en colère.
Le taxi, Monsieur Martel. Comme ça. C'était mon taxi.
Un mec génial.
Oh, tout point de vue. Beauté. Amabilité. Moi, il me rencontre un beau lundi, il m'a dit que je remonte. Ah, payez pas. Pour garçon, pas médisant. J'ai jamais compris, moi. Ça, j'ai jamais compris. Et ça, savez-vous pourquoi je vais vous dire? Les gens n'ont pas d'argent. Et pour aller faire des commissions, on est feignasses comme des poux, ils prennent le taxi. Comprenez? Alors lui, il venait, il rapportait les courses. Puis voilà, une méchanceté, sans doute. Malheureux. Hein. Malheureux parce que... Oh, j'étais surprise. Hein. Mmh. Ah oui, J'espère que c'est pas vrai, qu'il a pas été mêlé dans tout ça. À lui, j'y crois pas. Mais bon, moi, je sais qu'avec moi, correct.
Lorsque l'affaire a commencé en février 2001, bon, j'avais dit à ma femme, tu sais, il y a une affaire de pédophilie dans... Enfin, pas de pédophilie, non. À l'époque, c'était une affaire d'inceste. Quand ça a commencé avec Madame Manaoui, j'avais dit, tu sais, dans la mesure où je suis leur taxi, à tous les coups, je vais être rendu comme témoin. Donc ça, je l'avais dit. Non, pas témoin, accusé. À 6h du matin, on sonne chez vous, on tape dans la porte, et moi, je me réveille brutalement, brusquement. Et là, j'aperçois à la porte d'entrée, et devait être quatre policiers, avec brassards police. Je me dis, tiens, comme mon fils est ambulancier, qu'il est toujours sur les routes, l'inquiétude totale, je me dis, je crie Christelle, et je lui dis, écoute chérie, il doit être arrivé quelque chose à Guillaume, la police est en bas, et donc on a pensé tout de suite au pire, quoi. Donc ma femme est descendue, je suis descendu après, et là, ça a été pour me dire que j'étais impliqué dans une affaire de pédophilie, et que si j'avais déjà entendu parler de l'affaire de pédophilie d'Outreau, et que j'étais impliqué dedans.
Descendu parce que vous habitiez pas là ?
Si, mais on couche à l'étage, D'accord. Donc comme j'ai ouvert la persienne de la chambre de Guillaume, vers 7h, un des policiers me dit, vous allez nous suivre. Donc moi, je prends mes papiers, je prends ma clé de voiture, tout ça. Puis oui, il dit non, monsieur, il dit prenez des affaires et puis vous nous suivez, vous laissez votre voiture ici, on va vous interroger en garde à vue. Alors là, arrivé là-bas, empreinte, enlevez vos lacets, ceinture, cravate, on vous prend les empreintes, on vous prend en photo avec une ardoise, un numéro. Là, vous commencez à vous poser des questions, vous dites mais c'est pas possible. Alors moi, je demande au policier, mais je dis, ça va durer combien de temps? Mais il dit, monsieur, il dit, vous êtes en état d'arrestation, il dit, vous êtes en garde à vue, il dit, ça peut durer 24 heures, 48 heures, ou bien un an, deux ans. Alors là... Donc les heures passent, les jours passent, et puis le juge d'instruction vient au bout de 24 heures pour renouveler la garde à vue de 24 heures.
C'est le fameux juge.
Ouais, c'est le fameux juge.
Juge comment?
Burgot. Je suis pas prêt d'oublier son nom. Et donc lorsque je lui avais, ça c'était ce jour-là où. Ouais, je pense que c'est ce jour-là où, quand il m'a donné la feuille à signer pour l'incarcération, il y avait un dossier sur le côté de son bureau. Donc je lui demande pour bouger le dossier. Et là, avec un petit sourire narquois, il me dit, mais oui, monsieur Martel, vous pouvez bouger ce dossier. Il vous appartient, c'est votre dossier. Il est bien épais, vous voyez déjà. Et il dit, moi j'ai 4 ans pour instruire, vous aurez 20 ans pour réfléchir. Donc là ça commence à devenir sérieux. Là, vous nous dites, c'est pas possible. Hein. On comprend plus, quoi. Et puis après, ben c'est la course, parce que moi, pour éviter d'être suivi par les journalistes, tout ça, on m'a fait sortir du tribunal sans menottes pour pas être repéré. On s'est engouffré dans une voiture et puis on est parti. Et là, je suis arrivé devant la porte de la maison d'arrêt de Compiègne. La porte s'est ouverte, je suis rentré et j'en suis ressorti 2 ans et demi après.
Le journal Alain Passerelle.
Bonjour. Le coup de théâtre hier soir au procès d'Outreau. Au moins 13 des 17 personnes soupçonnées de pédophilie ont vu leurs accusations s'envoler d'un coup. Les deux principales accusatrices, Myriam Delay et sa voisine, disent avoir menti. Stupeur, puis grande émotion parmi les accusés.
Il y a deux Pierre Martel. Il y a celui qui avait eu une vie intègre. Moi, j'avais basé ma vie, calqué ma vie sur celle de mon père, qui a été un homme qui a vécu jusqu'à 80 ans, qui a été un homme droit, et j'ai calqué ma vie sur lui. C'était mon exemple. Et puis on vient m'arrêter comme ça en m'annonçant que je suis le pire des hommes, quoi. Donc comment voulez-vous être le même après ce genre de choses? C'est pas possible. Pas possible, il y a quelque chose qui a changé. Se retrouver seul avec un enfant dans un rayon, dans un supermarché, par exemple. La première fois où je me suis retrouvé à Leroy Merlin avec un enfant derrière moi, alors qu'il avait quitté ses parents qui étaient à l'autre bout du rayon, j'ai paniqué, j'ai eu peur. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que peut-être je n'ai plus confiance, je sais pas. On a peut-être le tort de penser qu'un enfant ne peut pas mentir. Et là, en l'occurrence, concrètement, on s'est aperçu que des enfants avaient menti. Quand on dit la vérité sort de la bouche des enfants, maintenant je me méfie. C'est dramatique quand même. Moi, j'ai rien demandé à personne. Moi, le 14 novembre 2001, si on n'était pas venu sonner à ma porte, si on ne m'avait pas arrêté, la vie continuait dans le bonheur le plus parfait qui soit. On était heureux. Mon épouse et moi, on était heureux. On ne demandait rien à personne. Pourquoi? Pourquoi tout ça?
Et pourquoi moi?
Alors là, pourquoi moi? Ben pourquoi moi? Parce que dans cette affaire, apparemment, il y avait soi-disant un trafic international. Donc, pour aller en Belgique, il fallait un taxi. Le taxi Martel était connu à Outreau dans la mesure où c'était moi qui transportais ces gens. Donc, les petits-enfants forcément me connaissaient. Quand j'allais chez Madame Badawi chercher avec ses enfants pour aller dans les commerces de Boulogne, les petits-enfants, je klaxonnais, ils étaient souvent dans le hall d'escalier, couraient vers la voiture en criant « Taxi Martel ». Donc, quand on leur a posé des questions, est-ce que lorsqu'on leur a montré ma photo sur le trombinoscope, est-ce que tu connais ce monsieur? Oui, Taxi Martel, forcément. C'est normal. Mais de là à aller raconter après tout ce qui s'est... Bon, là on comprend plus. Là, il y a quelque chose de pas normal. Il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas à quel niveau. Mais là, moi, je ne comprends plus à partir de ce moment-là.
Merci à Pierre Martel, merci à tous, merci Roselyne Godard, David Brunet et merci à tous les habitants de la Tour du Renard. C'était un reportage d'Olivia Gesbert, livre sur le thème de la rumeur, de sources sûres, de Véronique Campion-Vincent et Jean-Bruno Renard aux éditions Payot. Plus d'informations sont à votre disposition sur le site de là-bas si j'y suis, en allant sur franceinter.com. Technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Julien Chabassu. L'équipe de là-bas si j'y suis, c'est Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert pour le répondeur. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Réclame.